Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Placide Kitungwa, révolutionnaire de première heure. Il a fait partie du gouvernement de Gizenga à Stanleyville. Il a fait partie aussi des combattants de la révolution qu'on appelait Simba. C'est lui que nous allons recevoir aujourd'hui. Placide Kitungwa, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, merci. Merci, Kelly.
Avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de vous, de votre rapport dans le mouvement des combattants révolutionnaires, de votre rapport dans le gouvernement Kizenga Stanleyville. C'est une page de l'histoire que nous allons raconter à nos auditeurs. Mais avant d'entrer dans les détails de l'entretien, on va commencer par une brève biographie de votre personne. Vous êtes né où et quand?
Bon, je suis né à Mbulula, dans le territoire du Congo, au Katanga, le district du Tanganyika.
Et c'est où? Katanga ou à Kongolo, vous avez grandi, vous avez passé votre enfance, vous avez fait vos études primaires et secondaires?
J'ai fait mes études primaires à Kongolo, mais secondaires à Bukavu, à l'Athénée de Bukavu. D'abord interracial, et puis après une révolution que nous avions menée à l'Athénée interracial, nous avons été alors envoyés à l'Athénée royale.
Et donc vous avez commencé votre révolution aux humanités déjà?
Il semble, oui, effectivement, parce que vous savez que ce n'était pas facile avec le comportement qu'avaient les dirigeants coloniaux de l'époque. Hein. Ça ne pouvait qu'inciter qu'à amener ce genre de réaction, et c'était normal.
Et comment vous vous êtes retrouvé à Bukavu, de Kongolo à Bukavu?
C'est une longue histoire. J'ai commencé d'abord mes études à l'école normale de Lubunda, c'est dans le territoire de Kongolo. Et là, je me suis brouillé avec les prêtres parce que je ne voulais pas devenir enseignant. J'avais constaté que si je devenais enseignant à ce moment-là, c'était toute ma vie qui était perdue. Je me suis arrangé pour quitter l'école normale pour aller reprendre mes études à l'Athénée interracial de Bukavu.
Sans le consentement de vos parents ou bien avec le consentement des parents?
Avec le consentement de mes parents, parce que j'ai su leur faire comprendre que je ne voulais pas devenir enseignant à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui vous gênait dans le métier d'enseignant?
On était limité. On était très limité parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les études de 6 ans. Alors qu'à l'Athénée, je pouvais déjà faire les études de 6 ans et de là, on pouvait faire autre chose.
Donc, vous avez votre diplôme à l'Athénée de Bukavu?
Je n'ai pas eu mon diplôme à l'Athénée de Bukavu. C'est que je me suis retrouvé avec le combat révolutionnaire déjà à ce moment-là. On est venu me chercher à l'Athénée royale de Bukavu pour une mission qui concernait les intérêts de l'État. Moi, j'ai quitté les études parce que on est venu me chercher avec une équipe de militaires qui était envoyée à ce moment-là par Anissé Kachambura.
Pourquoi seulement vous étiez élève? Vous aviez quel âge déjà?
Oh bon, à ce moment-là, j'avais déjà 17-18 ans.
Et c'était quoi cette mission?
Bon, cette mission, on devait aller représenter la République du Congo à la première conférence économique de l'ONU pour l'Afrique. Il y avait 3 personnes, donc. Il y avait notre ami Bagira Casimir, qui était le chef de la délégation. Il y avait Bayoubassir et Sébastien et moi-même. Et nous sommes allés, nous avons quitté Bukavu pour Addis Abeba, pour prendre part à la conférence économique de l'ONU pour l'Afrique.
C'était en quelle année?
C'était en 1961.
Et juste après l'indépendance?
Juste après l'indépendance, oui. C'était en janvier 61.
Qu'est-ce qui est sorti de cette conférence de l'ONU?
Cette conférence, nous avons connu une sorte de déboire. C'est-à-dire que lorsque nous sommes retrouvés à Addis Abeba, déjà à l'ONU, donc à New York, il y avait des problèmes entre la délégation qui représentait le gouvernement Kasavubu et la délégation de Lumumba. Comme on devait s'y attendre, l'ONU venait d'accréditer la délégation de Kasavubu pour représenter la République du Congo.
Donc il y a eu 2 délégations qui représentaient la RDC là-bas. Un qui venait de Kinshasa, envoyé par le président Kasavubu, et l'autre qui venait de Stanleyville, envoyé par Lumumba.
Ça venait de Bukavu, mais qui était envoyé par... Lumumba était déjà mort à ce moment-là, envoyé par le gouvernement Gizenga.
Le gouvernement Gizenga qui se retrouvait en ce moment-là à Stanleyville.
Effectivement, à Stanleyville, oui.
Mais comment on a retrouvé deux délégations de la RDC à cette conférence?
Ben, parce qu'il y avait déjà une rivalité. On devait savoir qui avait effectivement le droit de représenter la République démocratique du Congo à Sémasia-Somala. Or, Lumumba, Patrice, qui était le premier ministre de la République démocratique du Congo, qu'on venait d'assassiner à Elisabethville à l'époque, aujourd'hui Lubumbashi, c'est lui qui avait le droit de représenter le gouvernement congolais.
Pourquoi vous dites que celui qui avait le droit de représenter, alors qu'il y avait un président de la République, c'est le président qui décide?
Non, la constitution à l'époque, donc la loi fondamentale de la République démocratique du Congo, le gouvernement était dirigé par le Premier ministre. C'est lui qui décidait de tous les problèmes qui concernaient la conduite des affaires de l'État.
Et le rôle du président, c'était quoi?
Le rôle du président, à l'époque, disons, c'était... Le président de la République n'était pas lui qui jouissait de la puissance que donnait la Constitution pour gérer l'état de la République du Congo. C'était le premier ministre qui avait la gestion du pays.
Mais le premier ministre avait été révoqué par le président.
Oui, ça encore, c'était une longue histoire. C'était une longue histoire parce que quand le président de la République, Kazavubu à l'époque, avait pris cette malheureuse décision de révoquer le premier ministre, le Parlement avait donné le plein pouvoir au Premier ministre.
Lorsque vous êtes parti, vous vous êtes rendu à cette conférence à Addis Abeba, vous représentiez la jeunesse lumumbiste.
Nous représentions non pas nécessairement la jeunesse lumumbiste, mais le gouvernement Lumumba.
Vous avez quelle fonction dans ce gouvernement?
Non, à ce moment-là, moi j'étais... À ce moment-là, nous étions encore membres de la délégation. C'est à peine que le pouvoir Lumumba venait de s'installer à Kisangani. Et il fallait qu'à tout prix que notre présence soit à manifester à Addis Abeba. Et on a constitué une délégation dans laquelle je faisais partie.
Comment le gouvernement se retrouvait à Stanleyville alors que la capitale était Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui?
Ah oui, c'est le début en somme des malheurs qu'a connu cette République démocratique du Congo aujourd'hui. En 1961, déjà fin 60-61, il y avait un combat politique ici à Kinshasa. Tout a été fait pour qu'on puisse évincer Lumumba. Et il était mis même en résidence surveillée ici. À ce moment-là, il y avait les soldats de l'ONU qui étaient au Congo ici. À ce moment-là, comme aujourd'hui nous avons la MONUSCO. Et Lumumba s'était retrouvé dans une situation où il ne pouvait plus être capable de gérer le gouvernement. Il n'était plus en paix, il n'était plus en sécurité. Et on a estimé qu'il était nécessaire de pouvoir quitter Kinshasa pour aller diriger le gouvernement à partir de Stanleyville.
Qui a estimé? Les 11 là, c'est qui?
Les 11, c'est Lumumba et l'équipe gouvernementale de l'époque.
Donc le président, lui, il est resté à Léopoldville, dans la capitale. Le gouvernement s'est retrouvé à Stanleyville.
Effectivement. Mais il se fait malheureusement que Lumumba n'est pas arrivé à Stanleyville. Quand les autres membres avaient quitté Léopoldville pour Stanleyville, qui est devenu aujourd'hui Kisangani, Lumumba, lui, avait été arrêté en cours de route.
Et à Stanleyville, c'est Antoine Gizenga qui dirigeait le gouvernement.
Oui, c'est Antoine Gizenga qui était à l'époque vice-premier ministre avec les autres membres de l'équipe gouvernementale qui sont parvenus à atteindre Kisangani.
Et c'était quoi votre réaction lorsque vous avez appris l'arrestation de Lumumba, vous qui étiez à Stanleyville?
C'était un cas grave parce que nous n'avons pas compris comment Lumumba d'abord pouvait être arrêté avec tout ce qu'il avait comme... pouvoir donné par le peuple, parce qu'il avait gagné la majorité relative dans les élections législatives. Et c'est ce qui a fait de lui d'ailleurs premier ministre. On ne pouvait pas comprendre comment les gens pouvaient déjà transgresser la constitution, hein, et arriver à créer ce qu'on appelle le complot, hein, qui a fait que le pays a pu être amené à des situations inextricables.
Et Gizenga, premier ministre, je dirais vice-premier ministre, mais c'est lui qui jouait le rôle de premier ministre dans les villes. Il était quel genre de personnage?
Antoine Gizenga, c'était un homme assez déterminé de conduire la direction du pouvoir que détenait Patrice Emery Lumumba en 60. Et il a mené avec une grande conscience. Mais cela ne faisait pas l'affaire de ceux qui étaient à Leopoldville, qui voulaient à tout prix casser ça. Et ils y sont parvenus d'une manière ou d'une autre.
Les membres du gouvernement et les députés lumumbistes sont rentrés finalement à Leopoldville.
Oui, on a constitué un amalgame. Donc on a créé toute une situation là, qu'on a amené avec des négociations qui avaient comme but, en somme, de pouvoir mieux contrôler les lumumbistes et les détruire. On est arrivé à créer ou constituer ce qu'on appelle la conférence de l'Ovanium pour arriver, en somme, à réformer une nouvelle équipe gouvernementale. Et dans cette équipe gouvernementale-là, avec tous les complots qui étaient déjà montés contre les lumumbistes, on a tout fait pour que ce ne soit pas un lumumbiste qui prenne le pouvoir. On a donné ce pouvoir-là à un certain Cyril Adoula, au mois d'août 61.
Qui était Lumumba pour vous? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Patrice Emery Lumumba?
Patrice Emery Lumumba, pour moi personnellement, représentait ce que nous appelons toutes les grandes ambitions que nous avions pour le Congo. À ce moment-là, nous étions des jeunes et sous le colonialisme. Et Lumumba était pour nous la grande fierté nationale. Parce que par ses prises de position, par son combat politique, il nous a donné un nouvel élan. Il nous a donné un grand espoir. Il nous a tracé la voie qui devait conduire le Congo vers le lendemain meilleur. Et un homme comme celui-là ne pouvait qu'avoir notre appui, notre soutien.
Lorsque Antoine Gizenga et tous les membres du gouvernement regagnent Leopoldville, Kinshasa la capitale, vous n'êtes pas rentré avec eux?
Non, moi je ne suis pas rentré avec eux parce que de toutes les façons, à ce moment-là, ceux qui avaient droit à venir à ce moment-là, c'était des députés nationaux. Et tous les députés nationaux sont descendus à Leopoldville.
Quelques ministres aussi du gouvernement, non?
Oui, quelques ministres qui étaient députés nationaux. D'ailleurs, à ce moment-là, les ministres, la plupart étaient tous, un bon nombre, presque tous d'ailleurs, étaient aussi des députés.
Et vous étiez, vous travaillez dans un cabinet ministériel?
Nous étions des jeunes à ce moment-là. On travaillait dans un cabinet ministériel, oui.
Lorsque vous avez quitté Stanleyville, qu'est-ce que vous avez fait après? Vous êtes allé où?
Lorsque nous avons quitté Stanleyville, moi je suis allé à Albertville, à Calémier.
Pourquoi vous avez choisi d'aller à Calémier?
Bon, j'ai choisi d'aller au Katanga parce qu'à ce moment-là, les amis venaient de constituer un gouvernement révolutionnaire là-bas, du Nord Katanga, qui était en somme, c'était un groupe d'amis qui luttait contre la sécession katangaise et on a fini par créer un gouvernement provincial au Nord Katanga qui n'était plus sous la direction, sous l'influence de Tshombe.
Placide Kitungwa, Kitungwa c'est un nom Emba?
Un nom Emba effectivement, oui.
Et les Bayemba soutenaient Moïse Tshombe avec sa sécession?
La majorité soutenait Tshombe, mais moi pas.
Comment expliquer que vous ne l'avez pas soutenu?
Moi je ne l'ai pas soutenu parce que d'abord je n'ai pas évolué à ce moment-là au Katanga. Dieu merci, parce que j'étais depuis 57-58, j'étais déjà au Kivu, où j'étudiais à l'école secondaire à ce moment-là. Et j'ai évolué, j'avais déjà opté pour une tendance nationaliste révolutionnaire. Et nous étions pour l'unité du pays. Nous avions lutté pour l'unitarisme. Et les amis du Katanga étaient... voulait qu'on puisse morceler ce pays.
Est-ce que c'était une bonne idée de la part de Moïse Tshombe?
Pour lui, oui. Pour lui, il estimait que c'était bien. Mais nous croyons qu'il était, en somme, dicté par les puissances de l'argent, ceux qui voulaient contrôler l'union minière du Haut-Katanga. Ils avaient besoin de soustraire le Congo de cette force du Katanga à l'époque, lui soustraire ses minéraux, lui soustraire ses possibilités financières qu'il gagnait au Congo, enfin au Katanga. Tshombe a été gagné par cette cause-là. C'était une cause décolonialiste en quelque sorte, qui voulait détruire le Congo, mais à leur faveur.
Alors, il n'y a pas eu la sécession seulement au Katanga, il y en a eu aussi au Kasai, il y a eu des soulèvements un peu partout dans le pays. Est-ce que cela signifie que le Congo n'était pas encore prêt à accéder à son indépendance?
Le Congo était tout à fait prêt à accéder à son indépendance. Mais vous savez que dans ce genre de situation, les forces du mal ne dormaient pas du tout. Il faut savoir que celui qui avait animé la sécession du Sud Kasaï, c'était Albert Kalonji. Albert Kalonji était un des membres importants et influents du mouvement national congolais. Mais il a été acquis à la cause, hein, il a été convaincu, acheté en quelque sorte par les colonialistes pour combattre Patrice Lumumba, hein, pour diminuer la force des nationalistes.
Lumumba avait beaucoup d'ennemis au pays.
Lumumba avait des grands ennemis d'abord, c'était des colonialistes. Et ces colonialistes devaient avoir leurs hommes ici au Congo, comme ça, on ne cessait pas de le vivre, même aujourd'hui, quoi.
Radio Capi, grand témoin.
Alors, vous dites que lorsque vous avez quitté Stanleyville, vous avez rejoint Albertville, donc Kalemi aujourd'hui. Vous avez rejoint un groupe d'amis à vous qui était dans un mouvement révolutionnaire contre la sécession katangaise. C'était quoi le nom de ce mouvement?
Ce mouvement était toujours des mouvements nationalistes. Hein. C'était toujours les Lumumbistes. Mais lorsque nous sommes arrivés à Albertville, nous avons trouvé des amis. Eux étaient des Lumumbistes. Hein, qui étaient des jeunes comme nous, hein, Laurent Désiré Kabila, hein, Massengo Idéfons.
Vous l'avez retrouvé à Albertville, Laurent Désiré Kabila?
Oui, je l'ai retrouvé à Albertville, mais nous étions d'abord rencontrés à Stanleyville. À Stanleyville, avant d'aller le voir à Albertville.
Et à Albertville, quelles étaient vos fonctions?
À Albertville, dès que je suis arrivé là-bas, j'étais d'abord pris comme directeur de cabinet au ministère de l'économie. Et lorsque nous avons déclenché la révolution, nous avons renversé le gouvernement là-bas, nous avons pris le pouvoir, j'étais le vice-président du gouvernement et ministre de l'économie et des finances.
Vous avez renversé quel gouvernement de Tshombe?
Nous avions renversé le gouvernement Sendwe.
Sendwe, je sais qu'il combattait aussi Tshombe, il était contre la sécession.
Oui, il était contre la sécession, mais vous savez que la révolution est dynamique. Hein, à un moment donné, le groupe, le nôtre, quoi, qui était assez avancé sur le plan révolutionnaire, nous avons estimé qu'il fallait nous débarrasser des éléments qui ne peuvent pas nous permettre d'atteindre les objectifs qui étaient les nôtres.
C'était quoi vos objectifs?
Nos objectifs étaient de nous débarrasser complètement de ce qu'on a appelé, hein, que nous appelions à ce moment-là les gens qui étaient acquis à la cause du colonialisme.
Vous étiez vice-président du gouvernement et qui était président?
Ildefons Massengo.
Alors on va parler un peu de Laurent Désiré Kabila, puisque vous avez été avec lui dans ce mouvement révolutionnaire. C'était quel genre de personne? Est-ce qu'un jour on pouvait imaginer qu'il serait président de la République du Congo?
Dire qu'imaginer, ça serait difficile. Parce que de toutes les façons, quand on se retrouve, on est tous jeunes, personne ne peut connaître le lendemain. Mais la réalité était que...
Mais même dans son parler, est-ce qu'il avait des grandes ambitions, il visait loin?
De toutes les façons, Laurent Désiré Kabila était un camarade qui avait des grandes convictions pour la réussite de la révolution. Et on sentait en lui, hein, cette ferveur-là. On sentait en lui l'ambition d'aller loin. Et aussi, de se hisser, hein, dans le leadership, dans le groupe.
On a évoqué ici Sendwe. Il y a un flou sur sa mort. Vous qui étiez au Katanga, est-ce que vous avez une idée sur ce qui s'était passé exactement
La mort de Jason Sendwe, vous savez, comme la mort de la plupart des grands hommes politiques, il y a toujours un flou. Hein, dans l'histoire, nous le dit. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas effectivement qui a tué, comment est mort, par exemple, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Il y a toujours des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore problème à connaître effectivement dans quelles circonstances réelles est mort notre camarade Laurent Désiré Kabila. Et Sindoué, c'est la même chose. Mais ce que nous savons, c'est que c'était en juin-juillet, il y avait déjà une situation qui a fait que les camarades qui venaient d'Ouvira, de Fizi Ouvira, faisaient déjà une pression pour arriver et occuper Kalemie. Les troupes du gouvernement ici de Kazavubu, avec Mobutu, s'étaient organisées pour pouvoir contenir cette avancée-là des révolutionnaires qui venaient de ce côté-là. Et quand la pression était devenue très forte, et qu'on voyait maintenant des militaires qui sont allés au front, qui revenaient là-bas en débandade, cette situation-là a créé un climat à Kalemie qui a fait que le gouvernement s'était décidé de quitter Kalemie pour aller s'installer à Kamina. Dans une soirée comme ça, tout le gouvernement est parti par train, a quitté Kalemie pour Kamina. Mais le président provincial était resté là-bas. Il a voulu rejoindre les autres par route. Et effectivement, après le départ des autres, lui-même aurait pris la voiture pour les rejoindre. Mais en cours de route, il a trouvé des militaires de l'ANC, Armée Nationale Congolaise, qui a estimé que lui ne pouvait pas passer, il ne pouvait pas les laisser. Ils l'ont fait rentrer à Kalemie. Et à Kalemie, au moment où il est arrivé, il a pris contact avec Leopoldville à l'époque pour qu'on lui envoie un avion pour l'évacuer de Kalemie. Et il avait pris, c'était un vendredi, je crois, je ne me souviens plus exactement la date, et il voulait aller prendre son avion pour Leopoldville. Et c'est en cours de route qu'il se serait croisé avec les troupes qui venaient de Ouvira Fizi. Et cela l'aurait peut-être liquidé.
Alors, on va parler de la gestion de votre gouvernement à Kalemie. Vous avez géré Kalemie pendant combien de temps?
Vous savez qu'à ce moment-là, tout allait vite. Le pouvoir révolutionnaire, l'objectif n'était pas la gestion du gouvernement, c'était plutôt la guerre, le combat révolutionnaire. Et si on avait formé un gouvernement, c'est parce qu'il fallait bien qu'il y ait un pouvoir qui se substitue à celui qui était là, et maintenir l'ordre, la discipline, et réorganiser le combat pour permettre une évolution normale de la révolution. Et c'était ça l'essentiel. Mais le gros du travail, c'était la lutte révolutionnaire, parce qu'il fallait libérer la République.
Vous n'avez pas réussi à libérer la République, malheureusement.
Nous n'avions pas réussi à libérer la République, parce que nous avions pratiquement occupé les trois quarts du pays. Et lorsque la situation était devenue intenable pour les troupes fantoches, donc de Kassavubu, de Mobutu ici, il y a eu la coalition américano-belge qui ont fait une agression sur Kisangani. Ils sont venus nous attaquer militairement et nous ont délogés de là.
Alors, quand on parle de mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a une branche politique et militaire, c'est qu'il y a des combattants dans le mouvement. Vous avez été aussi combattant?
Oui, effectivement, j'étais combattant.
Vous avez occupé le grade de major.
J'avais le grade de major, oui. Mais attaché au cabinet de Gaston Soumialo.
Alors, Placide Kitungwa, dites-nous comment vous passez vos moments de détente?
Les détentes. Mais je crois que nous n'avons plus l'âge des grandes détentes.
Et même les petites détentes, comment vous les passez?
Bon, je crois que nous occupons un peu plus de voir maintenant. Mais maintenant, on s'occupe des problèmes de la vie, de la famille, parce que on n'avait pas le temps de s'occuper de toutes ces questions-là. On essaie de voir maintenant comment on peut arriver à nous occuper un peu de la progéniture, comment leur donner une certaine formation qui peut leur permettre de se réintégrer dans le grand mouvement de la République.
Vous avez combien d'enfants?
J'ai 10 enfants.
Une grande famille et des petits-enfants, sûrement.
Oui, 10 petits-enfants.
Une grande famille, c'est un clan.
Un très grand clan.
Alors, il vous arrive d'écouter de la musique de temps en temps?
Bien sûr que oui, la musique, ça fait partie de ce qu'on appelle un calmant, quelquefois, oui.
Quel genre de musique vous aimez écouter?
La musique congolaise.
Ben, laquelle? Une musique qui vous ferait plaisir, par exemple, d'entendre sur Radio Capi?
Une musique que je, bon, disons, l'oké jazz. Hein, ça fait partie un peu de notre temps, hein, l'oké jazz, ou bien l'African jazz.
Un titre qui vous vient à l'esprit?
Malheureusement, pas, je n'ai pas un titre dans la tête.
Vous pouvez même pas fredonner un peu, juste un peu?
Oh non! Non!
Système. Mobali ya kenena poto yo, mobali ya kenena poto oh, akene koyekola oh, akene ki esika ya lisano, akene motako oh, oyo ninge Esika ya lisano moto nyonso asakanaka Esika ya mawa moto nyonso alelaka Ngai naleli mobali Akene motako Oyo ninye Nakuti na lopango bato bazali kolela Ngai na bandi na ngai pe kolela Kolela na ngai mawa ya mobali Mawa na ngai ya sisteme ye Mawa na ngai ya fisto ye Akosonga sanda nini ye Akosonga mbula nini ye Oyo nini ye Mikanda na yo ozali kotina Mbongo papa ozali kotina Na telefone tozali kosolola Mbote na fami ozali kopesa Na lingi presence Nga na lingi presence ya bomoto na yo papa Oyo ninye Boya makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Brussels Franco abeleli na Paris Balobi makambo ezali minene Makambo ezali minene Nasengi dodo nzela nga na bima Dodo andimeli nga na motema Nga na bimi mambo na butu Nakuti dodo na maboko ya manda na ngai Misozo ba esalite Makambo ezali binene Motema elinga ndenge nini na nenge nini ye motema ye boya nenge nini ye molimo na tia yango wapi ye toto a decevoir na ye alongoli ngai nesika nalingaka ye makambo ezali minene e. Nazalaka na susi na motema mama yango nakoma komela mingi ye yango nakoma kwiti kwiti ye mpona longola susi ya mobali oyo akoma na kamarade na ngai elusala ye makambo ezali minene e. Boya makambo ezali minene eh. Boya makambo ezali minene eh. Franco apeleli na Amerika oh, oh. Franco apeleli na Bruxelles oh, oh. Franco apeleli na Paris eh. Balobi makambo ezali minene eh. Makambo ezali minene eh. Franco Apelelina Bruxelles oh, oh. Franco Apelelina Paris eh. Balobi makambo ezali minene eh. Makambo ezali minene eh.
Makambo ezali kuro
mobali alingana apesanga masanga lobi na tango nga na kauki monoko mokolo lopango liboso ya nako kitoko na ngai na mayo edindi makambo ezali minene eh. Mobali apekisi nga banzela na kendeke na vandeli ye na ndako kasi sombelanga ba metrage kasi sombelanga ba bijou ye kasi sombelanga sapato mobali afandi na ye ndekolela makambo ezali minene eh. Moninga alulanga nelamba nalataka asengi nga elamba alata na boyi tosangisa solo ya nzoto na pimeli ye elamba ye tobimi asopeli ngai masanga na nko makambo ezali minene.
Placide Kitungwa, est-ce que personnellement vous croyez en cette révolution?
Je croyais fermement à cette révolution-là, fermement. J'étais sûr qu'on allait atteindre l'objectif.
Est-ce que parmi vous, il n'y avait pas des tops?
C'est possible qu'il y ait des tops. Vous savez qu'on ne peut pas connaître qui est top hein, dans un mouvement, mais un bon nombre de camarades qui étaient là, c'était des gens qu'on connaissait depuis longtemps. Et nous estimions que c'était des braves révolutionnaires et qui avaient à peu près les mêmes ambitions que nous et les mêmes visées que nous.
Alors, on sait que le mouvement les Lumumbistes avait créé une république à Stanleyville, Kisangani. C'était devenu un pays à part, sous la présidence de Dekbenye. Oui, c'était lui le président. La présidence était à Kisangani. Et les autres territoires que vous avez conquis, il avait placé des gens à lui.
Bon, lorsque Dekbenye s'est trouvé comme président de la République populaire du Congo à l'époque, donc... à Stanleyville. Nous sommes toujours dans les années 64. Le pouvoir n'était pas encore très bien assis. Parce que le gros était, la grande préoccupation à l'époque, c'était d'abord le combat, la lutte révolutionnaire. Et le combat continuait. Il fallait à tout prix libérer le reste du pays. Et dans le territoire qui était déjà conquis par cette révolution-là, il y avait des responsables qui dépendaient évidemment de Stanleyville.
Parlons toujours de votre révolution. Ben, certaines personnes estiment que c'était votre lutte, c'était pratiquement pour des intérêts personnels que nationalistes, comme vous avez laissé fait entendre.
Vous savez, quand on veut, on dit que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Quels intérêts personnels nous on pouvait avoir à cette époque-là? Nous étions des jeunes. Nous avions des ambitions de libérer ce pays contre ce que nous connaissions, que nous parlions, que nous connaissions comme des fantoches de l'impérialisme à l'époque-là. Il n'y avait pas question des ambitions personnelles. S'il y avait question des ambitions personnelles, nous ne serions pas dans la révolution. Nous ne pouvions pas abandonner nos études. Nous ne pouvions pas abandonner certaines situations qu'avaient certains amis. Hein? C'était un groupe de révolutionnaires déterminés à renverser le pouvoir fantoche qui dirigeait le pays à l'époque, etc. etc.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous regardez votre passé, toute la lutte que vous avez menée avec ce mouvement révolutionnaire? Vous vous dites, est-ce que vous avez atteint votre objectif? Est-ce que ça a été un échec? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous vous réjouissez de cette lutte que vous avez menée?
Je profite de votre micro pour vous donner mon point de vue sur cette situation-là. Je suis fier, je suis content que cette révolution ait abouti avec le triomphe le 17 mai par le camarade Laurent Désiré Kabila qui a pu réussir à prendre le pouvoir dans ce pays, à matérialiser nos rêves. C'était une grande fierté. Pour nous, nous sommes fiers de ce que notre lutte n'était pas vaine.
Mais vous l'avez laissé pratiquement seul. Tous les autres révolutionnaires, ils étaient devenus presque inactifs.
Vous savez qu'une révolution est toute une péripétie. Hein, ce n'est pas un problème comme une administration comme ça. Il y a beaucoup de problèmes que chacun connaît. La lutte a commencé en 64 et elle a triomphé. Hein. Disons, nous avons commencé la lutte depuis les années 58. On a eu l'indépendance en 60. Déjà en 60, on était déjà attaqué. Hein, le gouvernement de Lumumba n'a même pas fait 3 mois pour pouvoir diriger ce pays. On nous a arraché le pouvoir déjà en 60. Nous avons essayé de nous organiser à Kisangani en 61. Ils sont allés nous attaquer là-bas. Nous avons pris le pouvoir en 64. Hein? Nous avons occupé déjà les 3/4 du pays. Eh bien, l'Occident s'est mobilisé pour aller nous détruire. Mais pour une fois qu'on a réussi à renverser alors ce pouvoir-là, occuper la capitale, il y a de quoi être fier, non?
Il y a de quoi être fier, mais malheureusement, Laurent Désiré Kabila n'a pas fait longtemps au pouvoir. Il a été assassiné en 2001. Il arrive en 97, il renverse le régime de Mobutu. En 2001, il est assassiné. Vous appelez ça victoire?
J'appelle ça victoire. Vous savez que les amis disent l'histoire, hein? On dit que la révolution mange ses propres fils. Et Laurent Désiré Kabila, le sort qu'il a connu, c'est le sort qu'a connu la plupart des grands révolutionnaires du monde. Il ne pouvait pas, nous savions que sa tâche était difficile. Nous savions qu'on n'allait pas le laisser tranquille. Nous savions pas que l'Occident n'avait pas désarmé, que les forces du mal étaient toujours là. Et s'il a fini par être assassiné, pour nous, les révolutionnaires, ce n'était pas une surprise. C'était pas une surprise. Parce que nous savions que l'autre côté n'avait pas démissionné. Le problème était toujours d'empêcher le Congo de démarrer. L'Occident, ces hommes-là qui luttaient pour que ce pays ne puisse pas leur échapper, devenir indépendant, ne pouvaient pas laisser les vrais camarades diriger ce pays.
Mais est-ce qu'avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, le Congo a redémarré, a pris son envol pour le développement?
Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Vous étiez quand Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir à Kinshasa. Eh bien, nous étions à Kinshasa. Demander aux Kinois quelle était la vie à ce moment-là. Alors que on nous avait coupé de l'aide et de tout. Mais Laurent Désiré Kabila avait pris ce pays ici, lui avait donné de nouveaux espoirs de vivre.
Parlez-nous un peu de la fin de votre révolution. Hein, quand le pouvoir de Kinshasa vous a vraiment anéanti, quoi. Comment vous avez vécu ça?
C'était dur, parce que nous nous sommes retrouvés en exil.
Vous étiez allé où?
Moi, je m'étais retrouvé en Égypte, au Caire, à l'époque.
Vous êtes resté pendant combien d'années là-bas?
Bon, on est resté pendant presque 2 ans. De là, on est allé à la formation à La Havane, au Cuba.
Formation militaire?
Oui, formation militaire, parce que nous pensions toujours qu'il y a nécessité de continuer la lutte, continuer le combat.
Est-ce que vous avez continué vos activités de résistance après la fin de la rébellion des Simba?
En somme, il n'y avait pas eu une fin comme telle, mais il y a eu une période où le mouvement n'avait plus l'ampleur qu'il avait avant.
Est-ce que le mouvement avait des soutiens? Vous étiez soutenu?
On a eu des soutiens, oui.
Extérieurs?
Extérieurs, oui. On a eu des soutiens, et principalement des pays à ce moment-là, à l'époque du camp socialiste.
Lesquels, par exemple?
Pour l'Union soviétique, à l'époque la Chine.
Nous sommes à la fin de notre entretien. Comment vous évaluez aujourd'hui l'époque des résistances 64-65?
Ça a été un parcours. C'était en quelque sorte, ça j'étais les bases d'une révolution qui a pris du temps et qui a abouti aujourd'hui à ce que nous connaissons.
Placide Kitungwa, je vous remercie.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Placide Kitungwa, révolutionnaire des premières heures. Il a fait partie du gouvernement Gizenga à Stanleyville, actuellement Kisangani. Il a pris une part active dans la révolution lumumbiste de 1964. Merci à Guy Manzangu qui est à la technique, au micro, qui l'écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.